Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec notre évêque, Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes sur Radio Lapourdi et Radio Présence pour cette émission mensuelle avec notre évêque. Nous allons aborder tout d'abord les sujets de société, l'actualité chaude avec ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est cette polémique puisque une conférence est organisée par le service diocésain de la famille sur l'accompagnement des personnes homosexuelles et des associations ont réagi, notamment l'association SOS Homophobie qui a saisi la Midi-Luve, donc l'organisme de lutte contre les dérives sectaires qui s'oppose à ce genre de conférence. Alors comment est-ce que vous réagissez, Monseigneur, à cet emballement? Comment l'Église aussi peut-elle se positionner par rapport à ces personnes homosexuelles? C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut les accompagner, ne pas les laisser aux portes des églises et en même temps, ben, peut-être que l'accompagnement peut... blesser les gens qui estiment qu'on n'a pas à les aider puisque ce n'est pas une maladie. Alors comment vous réagissez?
En tout cas, entendre peut engendrer des malentendus hein, et des méprises. Moi, je me tiens d'abord évidemment en retrait d'une polémique qui enfle un peu dans les réseaux sociaux, je crois, et puis un petit peu dans la presse, d'abord locale, puis finalement, je pense par SOS Homophobie à un niveau plus national, semble-t-il. Bon, je souhaite que cette polémique désenfle. Elle est partie de quoi? Elle est partie d'une annonce qui ne dit pas grand-chose et en tout cas qui n'a rien de répréhensible, qui est l'organisation, je crois, de deux rencontres, le 7 et 8 mars, donc à Pau et à Bayonne, ou à Bayonne et à Pau, respectivement, qui est organisée par l'association Courage. Courage, qui est une association confessionnelle, hein, je le rappelle, qui est née aux États-Unis, mais qui a aussi... Une émanation en France, qui est un petit peu différente d'ailleurs de celle des États-Unis et qui est plus récente au niveau national, qui est accompagnée par un prêtre qui se trouve être le responsable de la pastorale familiale du diocèse de Toulon et qui entend simplement présenter. Hein. Donc ce n'est pas une conférence, c'est une rencontre qui est susceptible de susciter des échanges adressés aux personnes qui sont intéressées par la question de l'homosexualité. Ça peut être des familles, ça peut être des personnes homosexuelles, mais qui sont des chrétiens hein, au départ, parce que c'est dans le cadre de la pastorale. Donc on s'adresse à des personnes qui veulent suivre le Christ, comme tous les fidèles baptisés de notre diocèse. Et vous savez bien que dans notre conception anthropologique, si je puis dire, on ne considère pas des personnes comme hétérosexuelles ou comme homosexuelles, on considère des personnes comme des hommes et des femmes qui sont pour nous des baptisés, hein, qui veulent suivre le Christ. Et cette association Courage a une proposition, mais qui émane du témoignage de personnes homosexuelles chrétiennes, évidemment. Hein. D'ailleurs, ce prêtre sera accompagné d'un jeune homme homosexuel qui veut témoigner de ce que lui apporte ce mouvement, qui est un mouvement spirituel. C'est pas du tout un mouvement qui se situe dans une question de thérapie, comme on l'a dit, et qui mettrait en cause la question de... Non, c'est pas du tout sur ce registre-là qu'on se situe, bien entendu. On se situe d'une manière spirituelle pour les personnes homosexuelles qui se reconnaissent homosexuelles et qui, généralement, d'ailleurs, ne l'ont pas choisi, qui sont des chrétiens, qui veulent suivre le Christ et qui veulent découvrir davantage le dessein de Dieu dans leur vie. Alors, moi, si vous voulez, pour moi, ça n'a pas un caractère discriminant, au contraire, et j'ai été étonné que d'une manière peut-être un peu agressive et je dirais presque sectaire, d'abord c'est l'association des Bascos, hein, qui est l'association LGBT locale, avec son antenne de Pau, qui se sont saisis avec émoi en annonçant une casserolade pour, d'une certaine manière, troubler les personnes, les familles qui pourraient être intéressées par la présentation de ce mouvement qui est encore une fois un mouvement d'accompagnement spirituel qui s'adresse à des personnes qui veulent suivre le Christ. Et pour moi, c'est un droit. D'abord, c'est une liberté d'expression qui doit être respectée dans notre état de droit. C'est un choix libre des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par une communauté et par des personnes dans leur recherche de la volonté de Dieu dans leur vie. Nous sommes complètement dans les clous, si vous voulez, de cette pastorale de l'accompagnement, qui est le leitmotiv de notre pape François, comme vous le savez bien, qui accompagne des processus de croissance, comme il le disait dans la joie de l'Évangile, et qui a beaucoup insisté là-dessus dans Amoris Laetitia. Et d'ailleurs, il réserve un paragraphe à la fin du chapitre 6 de cette exhortation apostolique sur la joie de l'amour, sur la nécessité pour l'Église d'accompagner les familles, dont un des membres se reconnaît homosexuel, et d'aider les personnes homosexuelles. Les deux termes sont employés par le pape François, hein, accompagner et aider, qui désire tout simplement suivre le Christ et voir comment réaliser la volonté de Dieu dans leur vie de manière parfaitement libre, parce qu'il ne s'agit de forcer personne, il s'agit de proposer une voie alternative qui est celle que beaucoup de personnes homosexuelles, qui ne se reconnaissent pas tous, comme vous le savez, dans les revendications assez musclées, si je puis dire, des mouvements LGBT, et qui désirent même peut-être choisir la chasteté. Mais la chasteté, qui est un mot et qui est un gros mot aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, qui est tout à fait pansexualiste, elle est la vertu de la sexualité. Donc elle concerne tout le monde. Moi, elle me concerne dans mon célibat ecclésiastique choisi. Moi, elle concerne aussi les personnes mariées qui savent vivre aussi une certaine forme de chasteté, qui est simplement une vertu qui permet d'orienter leur sexualité aux fins de la personne et du mariage. Elle concerne toute personne. Bon, qu'une personne homosexuelle désire témoigner de sa paix et de sa sérénité à travers la pratique de la chasteté, en cherchant à pratiquer la chasteté et en se rendant bien compte que c'est un combat difficile et c'est difficile pour tout le monde, on est tous à la même enseigne, avec l'aide d'une communauté de frères, parce qu'on est accompagné précisément par des personnes qui sont dans la même situation que nous et qui nous entraidons mutuellement à vivre l'idéal chrétien comme nous le pouvons, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et est-ce que nous ne sommes pas exactement dans notre cœur de cible pastoral, qui est d'accompagner toute personne vers la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie et vers la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés en tant que baptisés? Vous voyez, là aussi, une chose que je ne comprends pas, c'est que dans la laïcité, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans notre émission, mais laïcité qui veut dire séparation de l'Église et de l'État, la Constitution française reconnaît à l'Église un droit exclusif d'organiser sa pastorale, et donc je ne vois pas quelle ingérence une association non confessionnelle, les médias, l'opinion publique, pourrait s'inviter, au nom de quelle ingérence, s'inviter dans ce que l'Église organise en interne, selon les principes qui sont ceux de l'Évangile.
Mais vous comprenez peut-être quand même que certaines personnes, même des catholiques, trouvent ce terme, c'est le titre du journal Sud-Ouest, « Aider les homosexuels », même certains catholiques disent « Est-ce que le diocèse joue pas un peu la provoque ?» En sachant que vous avez été quand même un des fers de lance de la Manif pour tous contre le mariage gay et lancer cette proposition, est-ce que c'est pas un peu jouer la provoque finalement?
Certainement pas. Je vois pas pourquoi on jouerait la provoque quand on est dans notre curiosité. Bon, on n'a pas dit aider les homosexuels. Ça, c'est le titre de Sud-Ouest, mais c'est pas le titre de l'annonce qui a été faite. C'est l'accompagnement des personnes homosexuelles. L'accompagnement des personnes homosexuelles, ça fait partie de notre vie pastorale. Donc, si on ne s'intéresse pas et si on laisse les personnes homosexuelles à la porte de l'Église avec une volonté de discrimination, on va nous dire vous êtes dans la discrimination. Si on propose un accompagnement spirituel, je répète, un accompagnement spirituel d'un mouvement qui a fait ses preuves et qui a des témoignages à donner, alors à ce moment-là, on est considéré comme étant des provocateurs. Mais attendez, je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas le problème.
C'était la priorité aujourd'hui dans le diocèse de proposer ce type de rencontre.
C'est pas une priorité, mais nous le faisons avec toutes sortes de catégories de fidèles.
Est-ce qu'il y avait besoin de faire quelque chose à part?
L'exhortation apostolique à Amoris Laetitia. Est-ce qu'elle n'a pas, elle nous a pas donné des indications pastorales profondes? Relisez le chapitre 6. Nous nous engageons premièrement dans la préparation au mariage, dans l'accompagnement des couples dans leurs premières années de mariage, dans toutes les situations irrégulières. On organise régulièrement depuis 3 ans, mais ça paraît complètement inaperçu parce que ça n'intéresse peut-être personne, mais c'est peut-être de la provoque aussi de faire des réunions pour les personnes divorcées, engagées dans une nouvelle union civile. Est-ce que ça a été considéré comme de la provocation? Nous le faisons régulièrement. Avec les personnes qui sont séparées et et qui veulent demeurer fidèles à leur mariage, c'est de la provocation de le faire. Et pourquoi pas aussi proposer un mouvement qui naît en France depuis 2 ou 3 ans sur aux personnes homosexuelles qui veulent aussi, ben, peut-être, une autre voie que celle qui est donnée par les associations LGBT. Mais ce n'est pas un jugement sur LGBT. Je pense qu'il faut que nous, catholiques, on arrête d'être toujours à l'écoute de toutes les opinions du monde qui sont ressassées en permanence et que nous entendons par les médias, et que nous ayons la liberté de poser des choses sans être toujours soupçonnés d'être dans le calcul, la complicité avec je ne sais quoi. Nous sommes dans notre ordre. Moi, je suis prêtre depuis 35 ans. J'accompagne comme prêtre, et surtout quand j'étais aumônier de jeunes et curé, des personnes homosexuelles qui me demandaient d'être accompagnées. Donc, je pense que je ne vais pas leur refuser cet accompagnement sous prétexte qu'il y a un mouvement qui prétend que. Voilà. Je pense qu'il faut être soi-même. Je n'ai pas de raison de m'excuser avec les convictions que j'ai, parce que je suis catholique dans la société d'aujourd'hui. C'est une liberté fondamentale, une liberté d'expression et un droit à la différence.
Le 7 et 8 mars, donc, vous donnez rendez-vous aux personnes à tendance homosexuelle.
Je ne me prononcerai plus maintenant sur cette question.
Alors derrière tout cela, on peut faire une petite transition avec le sujet suivant. On voit qu'il y a quand même malheureusement un décalage parfois entre la position de l'Église et la société d'aujourd'hui. Alors on l'a vu aussi lors de la marche pour la vie du 21 janvier dernier à Paris où vous étiez, où il y a eu une polémique aussi au sujet de l'avortement. Et puis c'est vrai que cette marche pour la vie n'est pas toujours vraiment prise en compte par les médias. Alors comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre les positions de l'Église et la société, comme s'il y avait une incompréhension? Et comment est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer d'expliquer
Mais je m'étonne que vous puissiez dire que ce décalage est malheureux. Ce décalage, il est inhérent à l'Évangile. Quand le vierge Siméon prophétise devant la Vierge Marie qui présente son enfant au temple qui est l'enfant Jésus, il lui dit bien précisément « Il sera un signe en but à la contradiction, afin que soient révélées les pensées intimes de bien des cœurs ». Quel étonnement il y a pour vous qui êtes chrétienne et baptisée, le décalage qu'il y a entre l'esprit du monde et l'esprit de l'Évangile.
Aimerait être mieux compris.
On aimerait être mieux compris, mais Jésus aussi aurait voulu être mieux compris. Et est-ce qu'il a été mieux compris? Quand il parle du célibat, par exemple, pour le royaume, qu'est-ce qu'il dit? Peuvent comprendre ceux qui peuvent comprendre. C'est pas donné à tous de comprendre. Il y a une part de l'Évangile qui n'est pas accessible à tous, et nous n'avons ni à nous en étonner, ni à nous en scandaliser. Mais ce n'est pas nous qui sommes les premiers rejetés, c'est le Christ qui est rejeté. Lui-même n'a pas été compris. Il aurait voulu que vous croyiez être mieux compris. Quant au bord du lac de Tibériade, dans la synagogue de Capharnaüm, il annonce le mystère de l'Eucharistie en des termes qui sont scandaleux pour son auditoire. Qu'est-ce qu'il dit à son auditoire? Quand il se dit « cette parole est trop dure à entendre, qui peut l'écouter ?» Est-ce qu'il est allé les rechercher? Non, je vais vous expliquer mieux. Je suis vraiment navré que vous ne compreniez pas. Il se tourne vers ses apôtres et dit « vous voulez partir vous aussi ?» Et qu'est-ce qu'ils répondent? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en même temps, ils n'ont pas compris mieux que les autres. Et peut-être que psychologiquement, ils étaient aussi scandalisés que les autres juifs d'entendre Jésus dire « si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous ». Est-ce qu'il faut à tout prix être compris ou est-ce qu'il faut témoigner de la vérité telle que le Christ nous l'a révélée et telle qu'on peut en faire l'expérience? Après, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'essayer de provoquer, mais on n'est pas forcément dans la provocation parce qu'on propose quelque chose qui est une voie qui reçoit aussi et recueille un certain assentiment de bien des personnes. La marche pour la vie, c'est pour ceux qui ont participé, c'est pas une marche de haine. C'est pas une marge de jugement, c'est pas une marge de condamnation. Vous savez très bien que si je suis très ferme sur les prix pour le respect de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, car pour moi, la vie humaine commence, et pour l'Église, qui est corroborée d'ailleurs par la science, la plus pointue en génétique, commence à la première cellule fécondée, eh bien, pour autant, j'accompagne des femmes qui ont avorté. J'ai participé pendant plusieurs jours à Lourdes à une session d'accueil et d'accompagnement des femmes qui demandaient un accompagnement spirituel après des avortements, et plusieurs avortements souvent, et depuis des années, parce qu'elles étaient minées dans leur cœur et dans leur conscience, on les a accompagnées avec la miséricorde qui convient, magnifique. J'étais bouleversé, moi, par le témoignage de ces femmes. Mais c'est une chose que je fais dans mon ministère depuis 35 ans. Et pour autant, je défends la dignité, l'inviolabilité de la vie humaine depuis sa conception. Et quand je vois cette marche pour la vie, qui est une voix festive, qui est une voix qui n'est absolument pas dans le slogan négatif, où 70% maintenant des manifestants sont des jeunes qui défendent la vie, je ne suis pas dans la haine. Je suis dans le rappel, peut-être, qui a toujours été celui de l'Église, parfois de réveiller les consciences par rapport à un drame objectif qui est vécu d'ailleurs par toute femme qui est souvent acculée contre son gré à cet acte et cette démarche qui n'est pas anodine, qu'est l'avortement. Eh bien, je suis frappé de voir que là, il y avait une très grande joie à dire oui à la vie.
Le communiqué du MRJC, c'est une faute pour vous ?
Oui, c'est une faute. D'ailleurs, ça a été ainsi déclaré par la conférence évêque de France, comme vous le savez. Moi, je n'ai jamais réagi à ce communiqué. C'est la commission épiscopale famille et société, ou des associations, pardon, et des mouvements de sont fidèles, qui a réagi de manière assez vigoureuse en disant que c'est une faute, d'abord, avant même la tenue de cette marche, de stigmatiser les marcheurs comme étant des semeurs de haine. Donc moi, j'aurais pu me sentir blessé, parce que je n'étais pas un semeur de haine, j'avais absolument pas conscience que les gens qui étaient autour de moi étaient des semeurs de haine. J'étais d'ailleurs avec un autre évêque, une marche pour la vie qui a été bénie par le Saint-Père, et qui a envoyé un message par le nonce apostolique d'encouragement. Et ensuite, leur position par rapport à l'avortement, en tant que mouvement d'église, n'est pas dans un communiqué officiel, et certainement tout à fait décalé par rapport à ce qu'est l'église. L'avortement n'est pas un droit fondamental. Si elle était tolérée dans certaines mesures par la loi Veil, qui ensuite, malheureusement, a beaucoup évolué, mais n'a jamais été considérée comme un droit fondamental. Et le droit de l'enfant à naître est le premier nom de le droit à la vie, comme disait Saint Jean-Paul II. Et quand on appartient à l'église, on peut difficilement porter officiellement, en tant que mouvement d'église, une position qui soit aussi contradictoire avec l'enseignement de l'Évangile tel que l'Église nous le transmet depuis 2000 ans.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, nous sommes avec vous pour cette émission mensuelle où nous parlons des sujets de société, notamment en ce moment, ce sont les états généraux de la bioéthique qui ont commencé le 18 janvier dernier. Alors, on sait qu'en ce moment, il y a des consultations, il y a des réunions. Déjà, est-ce que, selon vous, la voix de l'Église est suffisamment représentée, entendue jusqu'ici ? Est-ce qu'on peut faire un premier petit bilan de ces états généraux ?
On verra. On verra. Moi, je dis toujours, peut-être avec un peu d'ironie, que la Conférence évêque de France, qui avait fait un travail remarquable sous la direction de Mgr Dornelas, déjà en son temps, en 2011, pour cette première révision des lois de bioéthique, avait même ouvert un site internet dédié à ces états généraux de la bioéthique qui était beaucoup plus fréquenté que celui du gouvernement. C'est dire que l'Église a fait entendre sa voix avec des ouvrages remis aux parlementaires qui étaient tout à fait documentés du point de vue scientifique, juridique, anthropologique, théologique évidemment. C'est aussi notre spécialité, si je puis dire. Et pourtant, cette voix n'a pas été entendue tant que ça, puisque les lois ont été quand même votées. Voilà. Promulgué. Donc je suis dubitatif, c'est vrai, je ne peux pas le dire moins pour ces nouveaux états généraux de la bioéthique. Et en même temps, je crois qu'il faut y participer de manière active. Moi-même, j'ai commencé à prendre contact avec les parlementaires et eu des conversations privées dans lesquelles j'ai pu exposer la pensée de l'Église. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait de l'intérêt pour les parlementaires que j'ai rencontrés en leur fournissant les fiches techniques très bien faites qui ont été élaborées par le groupe de travail qui a été constitué au sein de la Conférence des évêques de France pour ces nouveaux états généraux de la bioéthique sur les différents points qui semblent être en discussion dans cette nouvelle révision.
Quels sont les points d'attention sur lesquels il faut qu'on soit?
Alors c'est sûr que les points d'attention, c'est essentiellement l'assistance médicale à la procréation, qu'on appelle aussi la procréation médicalement assistée, qui s'appelle la PMA, comme on le sait, qui jusqu'à présent était encadrée. Depuis 1994, elle était donc autorisée pour les couples hétérosexuels dont l'infertilité était médicalement diagnostiquée. Donc c'est dans un cas d'infertilité. Aujourd'hui, elle serait ouverte à toutes les femmes, donc c'est la PMA pour toutes, comme on dit, qu'elles soient célibataires ou qu'elles soient même en couple de même sexe. Donc ça pose quand même des problèmes, c'est vrai, éthiques. Et l'Église a effectivement un discours assez clair sur cette question de la PMA. Bon, donc il y a la PMA et la question de la fin de vie. C'est très surprenant d'ailleurs que cette question soit arrivée un peu de manière très improvisée alors qu'elle n'était pas prévue à l'ordre du jour. Il faut se rappeler que la dernière loi concernant la fin de vie date de 2016. Donc y avait-il besoin d'une révision de cette loi quand les décrets d'application ne sont pas encore tous promulgués, et qui était assez équilibré, la loi Claeys-Leonetti, qui surtout veut promouvoir les soins palliatifs, donc l'accompagnement, excusez-moi d'employer encore ce terme qui semble être tout à fait connoté, mais l'accompagnement des personnes en fin de vie, avec la possibilité de soulager évidemment leur souffrance et de lutter contre l'acharnement thérapeutique, mais surtout lutter contre le franchissement de la ligne rouge qui consisterait dans ce qu'on appelle l'euthanasie active. Et on sait que les lobbies pro-euthanasie sont extrêmement organisés, très actifs sur les réseaux, mais aussi dans les conférences. Jean-Luc Romero, qui est le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, vient de faire une conférence à Pau, et où il demande explicitement l'euthanasie active, qu'on matine de manière un petit peu soft à travers l'expression aide au suicide, enfin sur le suicide assisté. Bien. Donc ce sont quand même, à mon avis, les deux points principaux. Il y a aussi le problème de l'intelligence artificielle. Jusqu'où pourra-t-on aller jusqu'à dans la robotisation de la vie, pas seulement professionnelle, mais de la vie sociale, sans risquer de d'aller à l'encontre de la dignité de la personne humaine. Et ce sont quand même des questions qui sont très importantes. Il y a des progrès biotechnologiques qui sont évidents et qui peuvent améliorer ô combien la dignité de la vie humaine. Et en même temps, il y a une réflexion éthique, et donc il faut quand même se féliciter que ce soit au comité consultatif national consultatif Comité consultatif national d'éthique, qui ait été confié ces états généraux de la bioéthique. Bon, voilà, après, je pense que la parole de l'Église doit être aussi entendue. Et il y a ce groupe de travail qui nous invite à participer au débat. Donc, je pense que trois fidèles du diocèse ont participé à Paris à une session organisée par M. Dornelas pour préparer des argumentaires pour participer à ces débats. Bon, ils sont, comme vous savez, délocalisés dans les régions. Il n'y en a pas tellement en Aquitaine. Mais bon, je crois que très prochainement, il y a un débat organisé fin mars à Bordeaux sur la question de la PMA. Bah, il faudra sans doute qu'il y ait des gens de chez nous qui y participent, bien sûr.
Alors, ça nous amène justement à une ligne pastorale que vous avez voulu mettre en avant cette année dans le diocèse. C'est la doctrine sociale de l'Église. Vous estimez que cette doctrine sociale n'est pas assez connu par les fidèles, et peut-être aussi qu'on en a parlé, on l'a évoqué, il y a peut-être un décalage entre des gens qui se disent catholiques mais qui ne connaissent pas finalement l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Alors quels sont les axes ou les moyens, les outils que vous voulez mettre à disposition des fidèles pour qu'ils s'approprient ce sujet, ce thème?
Voilà, c'est vrai que c'est récurrent que l'on dise dans l'Église depuis plusieurs décennies que nous ne connaissons pas suffisamment cette doctrine sociale de l'Église qui s'est élaborée depuis plus de 100 ans maintenant et qui a pris en compte tous les bouleversements de la vie sociale, en particulier depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Et j'entends encore Jean-Paul II, le pape Benoît, aujourd'hui le pape François, en particulier dans son exhortation apostolique La joie de l'Évangile, mais aussi dans son encyclique Laudato si, sur sur l'écologie, dire il y a un compendium de doctrine sociale de l'Église qui avait été demandé par le pape Jean-Paul II à la commission pontificale Justice et Paix, qui a été publié en 2004, et qui doit être, comme dit le pape François dans la joie de l'évangile, connu et étudié et travaillé par les fidèles. On le comprend pourquoi, vous voyez, c'est d'autant plus opportun aujourd'hui, parce que nous sommes dans un régime de laïcité, bon, qui est la laïcité de l'État, mais qui tend à devenir de plus en plus une laïcisation de la société. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où, d'une manière un peu pratique, la foi des chrétiens, mais ça devrait être vrai de toutes les religions, est confinée dans la sphère du privé. Il faut s'excuser d'être chrétien aujourd'hui. Et on peut être chrétien dans sa vie privée, dans ses relations avec Dieu, dans son espérance de la vie éternelle. Mais pour ce qui est de notre vie sociale, qui a forcément un caractère public, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie associative, eh bien, on est le plus en plus contenu dans l'expression de notre foi. Et nous ne sommes pas schizophrènes. Nous avons conscience que la foi prend toute notre personne, que nous ne sommes pas seulement des êtres individuels. Alors c'est vrai que nous nous heurtons là à une culture profondément individualiste, sans doute, qui traverse notre société, mais nous sommes des êtres de communion, nous sommes des êtres de relations sociales. Et par conséquent, la foi que nous vivons personnellement, elle concerne pas seulement notre relation avec Dieu et notre espérance de la vie éternelle, mais elle concerne notre manière de vivre ici-bas avec nos frères et sœurs, avec les concitoyens dont nous partageons les joies et les espérances, les angoisses et les tristesses, comme dit la Constitution du Concile Gaudium et Spes, sur l'Église en monde de ce temps. Donc la foi éclaire aussi les relations sociales. La doctrine sociale de l'Église, finalement, tirée de l'Évangile, de la Révélation et de l'expérience chrétienne à travers les siècles, eh bien, essaie de d'éclairer les relations de la personne avec la société. Et donc, aide les fidèles laïcs, et je crois que c'est très important aujourd'hui, dont le champ d'application chrétienne, pourrait-on dire, ou d'exercice de leur vie, est la société, et dans toutes ses déclinaisons, eh bien, à animer chrétiennement les réalités temporelles, que ce soit celle de la famille, du travail, de la vie économique, la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle, tout ce que vous voudrez, à la lumière de la foi et de l'enseignement de l'Église.
C'est ce qui va se faire, par exemple, avec la présentation du label Église verte, le 17 mars.
Alors, il y a le label Église verte qui concerne la plus particulièrement la question, l'engagement ou la conversion écologique que le pape a demandé dans son encyclique Laudato Si, à laquelle nous sommes d'ailleurs très attentifs quant à nous dans les travaux immobiliers pour toutes les économies d'énergie, les panneaux photovoltaïques que nous avons hissés sur les toits de 22 bâtiments diocésains pour produire de l'énergie renouvelable, etc. Bon. Mais il y a aussi un dossier dans notre revue, la revue Notre Église, qui déploiera ces thèmes de la doctrine sociale de l'Église. Je vais lancer un nouveau cycle de catéchèses à la radio et sur le site du diocèse sur la doctrine sociale de l'Église à partir de Pâques. Voilà, donc toute une invitation à mieux connaître cette doctrine sociale de l'Église en utilisant en tout cas cet outil, présenté comme tel d'ailleurs encore par les papes et récemment pour le pape François, cet outil qui est même un outil d'évangélisation, dit-il, qui est le compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Dans la doctrine sociale de l'Église, un des thèmes, puisque c'est très vaste en fait, il y a beaucoup de thèmes, mais un des thèmes qui peut nous tenir à cœur ici au Pays Basque, c'est le thème de la nation, de la culture, des identités. Alors beaucoup de chrétiens sont engagés aujourd'hui ici au Pays Basque dans le processus de paix. On vous a reproché de ne pas assez vous exprimer sur ce sujet. Est-ce que pour vous c'est un sujet un peu difficile, un peu tabou?
Non, c'est pas un sujet tabou. Et ce n'est pas un sujet difficile. Vous comprenez bien, mais ma position, c'est de ne pas entrer dans une stratégie politique. Mais en même temps, c'est vrai que je dois me réjouir, et je veux me réjouir, de la paix qui grandit, en particulier au sein des familles, qui ont été, il y a encore peu de temps, très divisées sur cette question de la paix, de la question basque. Donc je crois que c'est très important de reconnaître que la paix progresse dans les chaumières, dans les familles, dans les villages, là où, dans certaines familles, ben, on n'était pas du même bord et on pouvait être très, très, très divisé sur cette question. Division qui pouvait avoir été aussi induite par des mouvements d'agression, de repli sur soi, et parfois qui pouvait aller jusqu'aux armes, hein, comme on l'a vu surtout dans le Pays Basque du Sud, avec l'organisation armée terroriste ETA. Et donc je me réjouis en tout cas de voir qu'il y a tout un travail qui se fait au sein de notre communauté pour la paix, hein, la paix sociale, hein, qui est, c'est vrai, un des points d'attention du pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, qui dit que c'est pas une encyclique sociale, mais dans le chapitre qui est consacré aux conséquences sociales de l'évangélisation, il dit qu'il y a l'intégration des pauvres dans la société, qui est le premier point qui lui tient à cœur, et le deuxième, c'est la paix sociale. Et donc je me réjouis aussi, et je les encourage, d'ailleurs je crois les avoir déjà encouragés, mais je veux le refaire, les chrétiens, hein, du Pays Basque, qui prennent ça à cœur, en particulier à travers l'organisation de temps de prière. Il y en a eu un qui s'est passé à la cathédrale il n'y a pas si longtemps que ça, un peu plus d'un an, le dernier était à Belloc, et qui a le souci aussi de faire témoigner des personnes qui ont été profondément blessées de plusieurs manières, en vue de demander au Seigneur, même si c'est toujours difficile, mais en vue de demander la réconciliation. Et en ce temps du carême, qui est un temps de conversion, de réconciliation, je pense qu'il faut saluer le travail qui est accompli, hein, par les chrétiens du Pays Basque en particulier, pour favoriser ce climat de paix, hein, et puis faire des avancées dans le cadre de la réconciliation.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet entretien.
Radio Lapourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayet, nous terminons cette émission avec vous en revenant sur les événements diocésains qui ont marqué nos communautés. Alors déjà, il y a eu la journée des 4e, 3e, où vous aimez toujours être présent durant toute la journée de ces grands rassemblements qui ont lieu régulièrement pour toutes les tranches d'âge. Je crois qu'il y avait environ 300 jeunes cette année. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces 4e, 3e qui sont un âge un petit peu charnière de l'adolescence ?
Alors moi, je n'aurais pas dit grand-chose parce que j'ai participé à cette journée qui était organisée par des ateliers, etc. Donc, j'ai juste fait un petit mot d'accueil. Le thème, c'était...
Créer pour le bonheur.
Créer pour le bonheur, voilà. Créer pour le bonheur. Alors, j'ai essayé de leur dire que c'était très important, qu'on était toujours créés pour le bonheur et que le Seigneur nous avait donné le secret du bonheur, en particulier dans les Béatitudes, hein, qui commence le fameux sermon sur la montagne en Saint Matthieu. Et ce sermon sur la montagne qui est la charte parfaite de la vie chrétienne. Donc c'est là que Jésus nous dit comment le suivre et comment être chrétien. Et en tout cas, il nous a créés pas pour être malheureux, pas pour être des sacrifiés, pas pour être des gens austères, mais il nous a créés pour le bonheur, mais à condition que ce soit le vrai bonheur et que nous pouvons être déroutés par des marchands d'illusions, hein, comme dirait le pape François dans son message de carême. Et donc c'est une belle journée qui s'est passée complètement sous la pluie, mais qui était à Notre-Dame du Refuge, donc c'est quand même un lieu très porteur. Et ils avaient axé, les organisateurs donc de la Passerelle des Jeunes, avaient axé cette journée sur les questions relatives à la vie affective. Et je pense que pour des adolescents, c'est une question importante. On se rend compte que les animateurs eux-mêmes ne savent pas trop bien comment l'aborder, parce que c'est vrai aussi que tous ces jeunes sont dans des situations familiales très, très diversifiées. Il y a aussi pas mal de souffrances, hein, dans ce domaine, comme vous le savez. De souffrances d'ailleurs assez cachées, dont ils ne parlent pas nécessairement. Puis ils n'ont pas beaucoup d'adultes avec qui ils peuvent en parler. Hein. Vous savez qu'il y a l'Éducation nationale avait à travers une circulaire, demandé que dans des classes du collège, il y ait au moins 3 heures qui soient consacrées à ce que l'on appelle l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. On se rend compte que la plupart du temps, on parle essentiellement de l'éducation sexuelle et d'une manière extrêmement factuelle, de manière très, très technique et finalement biologique. Et donc c'est important de resituer justement ce qui fait partie du bouillonnement de l'adolescence dans la personne, hein, qui n'est pas seulement un corps, et dans les relations interpersonnelles, et donc dans ce qu'on appellera le domaine de l'affectivité, quoi. Et c'est, alors moi j'ai parlé surtout aux animateurs, parce que pendant que les jeunes étaient en atelier Teen Star, hein, qui est une méthode d'éducation affective et sexuelle orientée vers les jeunes, que dans certains établissements scolaires ils ont mis en place, par exemple à l'Argenté ou à Saint-Bernard. Eh bien, moi, j'ai parlé justement de cette éducation affective dont on ne devait pas avoir peur, en donnant quelques fondements un peu anthropologiques et bibliques aux animateurs qui étaient rassemblés pendant ce temps-là. Voilà.
Le 4 février, vous étiez avec les religieuses et les religieux du diocèse à Belloc pour la journée de la vie consacrée. Quel était le message que vous avez délivré à ces religieux, à ces religieuses ?
Alors d'abord, c'est un beau moment de rencontre avec nos consacrés du diocèse, sachant que, comme vous le savez, le pape Jean-Paul II avait institué la journée de la vie consacrée pour le 2 février de chaque année, qui est la fête de la présentation au Seigneur, donc de la consécration du Christ tout entier à son Père, qui annonce d'ailleurs prophétiquement sa consécration totale sur la croix, hein, son offrande d'amour. Et la vie consacrée, c'est une offrande d'amour de soi, hein, à travers les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance parfaite. Et donc il avait institué cette journée de la vie consacrée pour rendre grâce à Dieu pour ce don de la vie consacrée faite à l'Église. Et puis ensuite, il avait aussi institué, pour que les consacrés puissent avoir cette journée de partage pour approfondir la richesse ou le trésor de leur vie consacrée, et enfin, pour donner une visibilité un peu prophétique dans l'Église à cette vie consacrée. C'est pourquoi j'avais demandé cette année que la vie consacrée n'ait pas lieu le 2 février, qui la plupart du temps tombe en semaine, mais un dimanche, donc le dimanche qui suit. On aurait dû le faire, et c'est ce qu'on fera l'année prochaine dans une paroisse, pour justement donner un peu plus de publicité, au sens de visibilité à la vie consacrée dans notre diocèse, mais on l'a fait à Belloc, où vous savez, le dimanche il y a aussi pas mal de fidèles qui viennent partager la messe dominicale avec les moines et les moniales. Voilà, j'ai surtout invité à l'espérance, hein, en disant que, en reprenant l'homélie du pape François pour le 2 février, donc là, à Rome, où il disait que dans l'épisode de la présentation au Seigneur, ce ne sont pas les jeunes qui parlent, et qui d'ailleurs qui sont silencieux, en l'occurrence Marie et Joseph, qui amènent leur petit nouveau-né, Jésus, mais ce sont les anciens, hein, qui parlent de manière prophétique et qui engage à être dans l'espérance. En l'occurrence, c'est Anne, la prophétesse Anne, qui a 84 ans, et le vieillard Siméon, hein, comme on le dit, qui sont tournés vers l'avenir, et qui parlent de l'avenir qu'est Jésus-Christ, hein, qu'ils reconnaissent dans l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et donc, je disais aux consacrés, qui sont, c'est vrai, quand même pour la plupart anciens dans notre diocèse, car on sait le vieillissement, et que c'est à eux de prophétiser l'espérance. Donc c'est une belle responsabilité, tout en les remerciant pour leur témoignage de fidélité à la vie consacrée.
Est-ce que c'est une vie qui peut encore être attirante pour les jeunes aujourd'hui, où on sent que c'est la fin d'un cycle, ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore attirer des vocations ?
Oui, bien sûr. Il y a toujours eu comme ça des cycles, hein, dans l'Église. Il est manifeste qu'il y a des congrégations plus contemplatives, peut-être, qui attirent encore beaucoup de jeunes. Hein. Je vois par exemple les Petites Sœurs de Bethléem, qui sont des congrégations assez nouvelles, qui datent de 1950, attirent beaucoup de jeunes. Alors c'est une vie contemplative, beaucoup plus exigeante peut-être parfois qu'une vie davantage dans le monde. C'est vrai que nos congrégations du 19e, qui sont nées parfois pour répondre à des besoins de l'époque, qui, à mon avis, dont le charisme continue d'être tout à fait pertinent et opportun pour aujourd'hui, mais vieillissent davantage. Il y a un grand mystère, hein. Il y a un grand mystère, mais on invite toujours davantage les consacrés, comme le disait le Concile dans son décret sur la vie consacrée, Perfecte Caritatis, à être toujours plus fidèles au charisme de leur fondateur. C'est tout un travail qui est accompli généralement dans ces communautés, mais je suis sûr que la vie consacrée attire encore bien des jeunes qui veulent donner leur vie au Seigneur et à leurs frères.
Le premier dimanche de mars, c'est la célébration traditionnelle de la Saint-Léon à la cathédrale de Bayonne. Saint-Léon qui est le patron de la ville de Bayonne. Alors cette année, quel est votre invité ?
Alors mon invité, c'est l'évêque de Kara, au Togo. Comme vous savez, nous avons initié un projet de jumelage, ou de partenariat, je ne sais pas comment il faut dire, avec ce diocèse de Kara depuis quelque temps. Après un voyage que j'ai accompli avec le responsable de la mission universelle dans le diocèse, qui est l'abbé Jean-Michel Barnetsch, c'était en décembre 2015, je pense, à l'appel de cet évêque qui nous avait demandé si on pouvait étudier un partenariat, et qui nous envoie déjà depuis quelques années quelques prêtres, ou bien en mission d'études, ou bien comme fidèles de nous, dans nos paroisses. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne occasion de l'inviter, puisque j'invite un évêque chaque année pour la Saint-Léon, et je lui propose aussi de faire une petite visite pastorale de notre diocèse, comme je l'avais faite moi-même à Kara en 2015. Donc nous avons organisé tout un ensemble de rencontres, de visites dans le Pays Basque, au Béarn, de religieux, de fidèles, de paroisses, d'établissements catholiques, de rencontres de prêtres, etc. Donc un beau petit programme qu'il va accomplir à partir du 27 février, puisqu'il arrive le 27 février après-midi, avec un prêtre qu'il a désiré amener avec lui, qui est l'abbé Innocent, que nous avons eu pendant 3 ans à Pau, en mission d'études. À la Sainte Famille.
Alors, un jumelage, ça consiste en quoi concrètement, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce diocèse au Togo ?
C'est un partenariat qui n'est pas seulement matériel, mais qui est aussi pastoral et spirituel. Alors déjà, il s'est concrétisé jusqu'à présent à travers l'échange de prêtres. Il y a des prêtres qui sont venus chez nous pour nous aider dans notre ministère pastoral. Nous avons envoyé un séminariste, et on en enverra peut-être d'autres, pour faire un stage intercycle. Donc il y a un échange de pastoral qui se fait de cette manière-là, un enrichissement mutuel. Et puis il peut y avoir des collaborations au niveau des écoles, au niveau des paroisses. Ça, ce sera la libre initiative des réalités de notre diocèse et des réalités du diocèse de Kara, que l'on essaie d'encourager grâce à un petit comité de pilotage qui a été constitué au niveau de la cellule de mission universelle du diocèse.
Un mot sur votre lointain prédécesseur, Saint-Léon, que vous allez honorer le 4 mars à la cathédrale de Bayonne. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant qu'évêque, de la vie de ce premier évêque, selon la légende, de ce premier évêque de Bayonne ?
Alors Saint-Léon, d'abord, est un évêque missionnaire, qui n'est pas d'ici, puisqu'il était normand. Il est né à 40 ans. Alors il est né à... Il n'avait pas 40 ans quand il est né, mais c'est la ville de 40 ans en Normandie. Et il était évêque de Rouen. Et un jour, il a demandé au pape d'être déchargé de sa responsabilité d'évêque de Rouen pour aller évangéliser les Vikings qui envahissaient les Basques. Et c'est comme ça qu'il est arrivé ici pour annoncer l'évangile aux Vikings. Et bien mal lui en a pris, si on peut dire, puisqu'il a été décapité par ces mêmes Vikings et il est mort martyr. Et comme dit Tertullien, « Sanguis martyrum » Semen Christianorum, le sang des martyrs est une semence de chrétiens, et donc ça a certainement fécondé pour une bonne part l'église de Bayonne.
C'est pour ça que vous vous défendez toujours les Basques aujourd'hui.
C'est pour ça que je défends toujours les Basques et que j'essaie d'aussi être ici un évêque missionnaire, cherchant à ce que les Basques ne se laissent pas coloniser par les Vikings de notre temps.
On espère que vous finirez pas avec la tête coupée quand même.
Mais peut-être qu'il faut l'espérer. Le martyr a été longtemps un objet d'espérance pour les chrétiens.
On se retrouve dans quelques instants, nous parlerons du temps du carême.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé. Le 18 février, vous avez célébré les appels décisifs avec les catéchumènes. Alors, combien étaient-ils et qu'est-ce que ça signifie d'être catéchumène en 2018, aujourd'hui, dans notre société?
Alors, cette année, nous avions 34 catéchumènes adultes, qui sont d'ailleurs pour la plupart des jeunes adultes, pas des étudiants cette année. D'habitude, on a toujours un petit groupe d'étudiants. Il se trouve que cette année, il y a un groupe vraiment assez important de 34 adultes, mais qui sont surtout des jeunes adultes. Donc c'est toujours un émerveillement pour moi, hein, comme je le dis toujours, que de rencontrer ces personnes que je rencontre personnellement au cours d'une récollection que nous faisons avant les appels décisifs. Nous avons fait cette année à Naï, à la communauté des Béatitudes, et qui viennent me rencontrer pendant 7 minutes chrono. Donc il y a un animateur qui vient frapper à la porte à chaque fois, parce qu'il faut que je les vois tous. Et c'est un émerveillement de voir la fraîcheur de leur désir d'appartenir au Christ, de demander le baptême, alors que ils viennent souvent de familles ou de milieux, souvent indifférents, mais parfois même opposés à la foi chrétienne. Et grandit parfois dans des milieux tout à fait improbables et de manière inattendue. Il faut voir que ces jeunes adultes viennent témoigner de leur rencontre mystérieuse avec le Seigneur, dont ils ne savent pas toujours que c'est le Seigneur, mais en lien avec l'Église, des équipes d'accompagnement que je salue au passage, qui font un remarquable travail dans nos paroisses, dans nos communautés, finissent par découvrir Jésus-Christ avec un désir de lui appartenir. Et puis alors on sent aussi une vraie, non seulement authenticité, mais une vraie désir de vivre en vérité. Ils comprennent que le baptême va être aussi une libération, va les laver d'une certaine manière, parce qu'ils sentent bien qu'ils ont besoin d'être sauvés, d'être purifiés. Et ils viennent confier, ils viennent me confier de manière très confidentielle sans doute, mais des choses de leur vie qui leur pèsent et dont ils ont conscience que le baptême va les libérer. Donc c'est une très très belle... Et les appels décisifs ont eu lieu, donc, comme dans tous les diocèses, le premier dimanche de carême, à Salis de Béarn, une très belle célébration aussi en présence des paroissiens.
Ils seront donc baptisés à la veillée pascale.
À la vigile pascale.
Et confirmés
eucharistiés, pas tous, parce que tous ne le désirent pas, et puis il peut y avoir des étapes de croissance, mais la plupart quand même recevront les trois sacrements de l'initiation chrétienne en même temps.
Alors, Mgr Ayer, nous sommes dans la période de carême. À cette occasion, le pape François a lancé un message assez fort où il parle des faux prophètes, du cœur froid qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce message? Et puis, est-ce que vous-même, vous avez un message plus particulier à donner au diocèse?
Alors moi, je me contente du message du pape, qui est un message magnifique, en effet très simple, très percutant, qui nous parle en effet de refroidissement de la charité et qui nous parle de ces tentations modernes qui sont portées toujours par le père du mensonge, qui est le diable ou Satan, mot nom que prononce assez fréquemment le pape François, à travers ce qu'il appelle des charlatans ou des marchands d'illusions qui détournent les hommes du vrai bonheur. Alors il dit, la première tentation du monde d'aujourd'hui, c'est l'avidité de l'argent, qui est la racine de tous les maux, comme dit saint Paul. Vient ensuite le refus de Dieu, et on voit bien que ce refus de Dieu est lié à ce matérialisme ambiant dans lequel nous nageons, nous surnageons. Et ce refus de Dieu entraîne aussi toutes les formes de violence, dit-il, à l'encontre de tous ceux que nous considérons comme menaçant nos certitudes ou nos conforts. Il dit, par exemple, l'enfant à naître, la personne âgée en fin de vie, l'étranger, le pauvre, etc., etc. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire, dit-il, pour lutter contre ces grandes tentations, davantage prier, écouter la parole de Dieu, et puis pratiquer l'aumône et le jeûne, qui sont les trois œuvres du carême, la prière pour lutter contre le refus de Dieu, le jeûne pour lutter contre l'avidité de l'argent, et l'aumône pour lutter contre la violence qui, quelquefois, anime nos relations humaines au sein de la société. Donc je trouve que ce message est très parlant et j'espère, ce serait peut-être mon message, qu'il sera travaillé dans nos communautés parce qu'il porte des réalités qui sont très concrètes et qui parlent tout à fait bien à notre vie à tous.
Le week-end du 10-11 mars, quelques paroisses vont faire l'initiative 24 heures pour le Seigneur. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez ?
Bien sûr. Le pape d'ailleurs encourage à ce qu'il y ait au moins, maintenant il dit au moins une église dans le diocèse, mais je sais qu'il y aura plusieurs églises dans le diocèse où auront lieu ces 24 heures pour le Seigneur. Il dit que ce doit être un temps d'adoration qui permettent aux fidèles de recourir au sacrement de la réconciliation. Donc c'est l'héritage du jubilé de la miséricorde. Le temps du carême, c'est vraiment le temps de la conversion, hein, de se détourner de soi-même, en se convertissant à Dieu et donc aux autres. Et donc est le temps de la réconciliation, et qui passe évidemment par une pratique renouvelée du sacrement de la pénitence et de la réconciliation.
À la fin du mois de mars, ce sera la Semaine Sainte. Où aura lieu et quand aura lieu la messe chrismale ?
Alors la messe chrismale cette année aura lieu à Bayonne, à la cathédrale de Bayonne. Ça aura lieu le mardi saint. Donc on a choisi le mardi cette fois-ci, après avoir cherché entre le lundi et le mercredi. Donc le mardi 27 mars à 18h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
C'est le jour de la fête du Père Sestac.
Alors c'est la fête du Père Sestac, mais comme vous le savez, pendant la Semaine Sainte, on ne peut pas célébrer aucune fête ou solennité. Même l'Annonciation, qui normalement est le 25 mars, qui sera le dimanche du Rameau, est reportée au 9 avril. Parce que pendant la Semaine Sainte et pendant la semaine de Pâques, on ne peut rien célébrer autre que le mystère du Christ.
Et pour Pâques, vous serez où, Monseigneur ?
Eh bien, pour la Vigile Pascale, cette année, je serai aussi à la cathédrale, où il y a aussi des baptêmes d'adultes. Et puis, le dimanche de Pâques au matin aussi, sans doute, je serai à la cathédrale.
Et vous donnez aussi rendez-vous à tous les diocésains le premier dimanche de mai, je crois.
Alors, le dimanche 6 mai, ça c'est très important, l'édition diocèse en fête, hein, qui aura plusieurs, qui est travaillée, préparée par l'Observatoire de la Mission, et où il y aura, trois grands lieux importants, on va dire. Le premier lieu, c'est au cloître de la cathédrale, un partage d'initiatives missionnaires.
C'est à Bayonne.
Voilà, à Bayonne. Un partage d'initiatives missionnaires qui seront proposés par les communautés, les mouvements et les services. Sur le parvis, ce qu'on appellera avec Benoît XVI un parvis des gentils, avec un ensemble d'animations musicales, de chants, de scénettes, pour aussi attirer beaucoup plus de monde, qui peuvent rester parfois sur le parvis, mais qui seront ainsi en contact avec notre Église. Et puis il y aura aussi un troisième espace important, ce sera un repas partagé auquel nous inviterons, à l'aide des associations caritatives, Secours catholique, Hors de Malte, Société Saint-Saint-Paul, des personnes en situation de précarité pour qu'elles trouvent vraiment leur place dans notre communauté. Et enfin, il y aura l'espace sanctuarisé de la cathédrale où il y aura un temps d'adoration, des confessions possibles et puis évidemment la célébration de la messe le matin et une célébration d'envoi qu'on a voulu être un peu culturelle dans le sens où les vêpres seront chantées en basque. Parce que je crois que c'est assez important au Pays Basque, la liturgie des vêpres. Et aussi en chaldéen ou syriaque, pour inviter aussi les réfugiés. Et Michele Ramuspe, qui est un peu en charge de cette partie, nous dit qu'il y a un lien dans la mise en place des vêpres en basque, à l'initiative des moines de Belloc en particulier, avec les mélodies syriaques. Parce qu'il y a eu des liens entre Belloc et la vie monastique en Orient. Et donc je trouve que c'est une très belle initiative qui nous réunira à Bayonne.
Donc le dimanche 6 mai.
6 mai.
Merci Monseigneur et bonne fin de carême à toutes et à tous. Et merci aux auditeurs de Présence et de Radio Lapourdi. Merci Violaine.